Aujourd'hui, nous lirons un texte que vous connaissez sans doute très bien pour ceux qui viennent souvent au temple. Un texte qui vient de l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 11 à 32. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans les champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste alors que moi, ici, je meurs de faim ? Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. » Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton fils que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Nous chantons ensemble le cantique 203. Oui, c'est ça. 202, pardon. 202, nos cœurs pleins de reconnaissance.
Yeah.
nous prions ensemble. Ne nous laisse jamais oublier, Seigneur, que tu parles aussi quand tu te tais. Donne-nous d'avoir cette confiance quand nous attendons ta venue, que tu te tais par amour, comme tu parles par amour. Que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours le même Père, le même cœur paternel, que tu nous guides par ta voix ou que tu nous élèves par ton silence. Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Quand le fils revient chez son père après avoir dilapidé son héritage, il confesse son péché. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On pourrait attendre du père des paroles, soit de réprimande, soit de réconfort, des paroles pour atténuer la honte de ce fils qui revient tout penaud, un pardon donné. Mais le père ne parle pas à ce fils qu'il avait perdu et qu'il croyait peut-être mort. Comme si la confession du péché du fils n'était pas entendue, comme si aucun commentaire sur l'attitude du fils ne devait venir gâcher ses retrouvailles. Pas un mot, le père ne dira rien à ce fils qu'il vient de retrouver. Il le prend dans ses bras, sans lui adresser la parole, simplement il le prend dans ses bras. Quand il parle, c'est avec ses esclaves et il leur donne des ordres pour revêtir cet homme qui revient dans un piteux état. Tant que l'apparence du fils sera celle du pécheur qui confesse son indignité, le père se démènera pour lui redonner une dignité. Cela ne souffre aucune discussion, aucun délai, c'est son fils qui rentre. Et pour le moment, son apparence n'est pas conforme à sa qualité de fils. Le père doit remettre de l'ordre dans ce chaos que le Fils semble porter sur lui. C'est cet acte de revêtir le Fils qui devient parole de pardon, ce geste de le reconstruire en quelque sorte, de lui redonner une autre apparence, une absolution, une réintégration. Le Père transforme le Fils en lui donnant de nouveaux vêtements. Que lui donne-t-on comme nouvelle parure ? D'abord, la plus belle robe. Il s'agit sans doute de la robe qui descend jusqu'aux pieds, d'après le terme qui est employé dans la Bible, celle qu'on revêt pour les fêtes, celle qui est trop longue pour qu'on travaille avec elle. Dans l'Antiquité, les riches maîtres avaient une garde-robe pour revêtir leurs invités quand ils arrivaient chez eux. Ils leur donnaient un habit de fête en entrant. Donner une telle tunique à son fils, c'est lui dire à quel point il l'aime, à quel point il le reconnaît comme digne. Dans la Genèse, Jacob donne aussi une tunique à Joseph. Et voici ce que dit la Genèse. Israël aimait Joseph plus que tous les autres, ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Pour montrer sa préférence et son attachement à Joseph, Jacob n'hésite pas à lui donner une tunique multicolore, un vêtement hors du commun, qu'on ne peut pas sans doute rater quand on le voit, un vêtement très précieux parce que fait de plusieurs étoffes colorées, teintes, de couleurs différentes, ce qui nécessite un long travail, une confection compliquée et donc un prix élevé. En faisant cela, le père donne du prix à son fils. Évidemment, ce signe extérieur de richesse va susciter la jalousie des autres frères qui finiront par le laisser pour mort dans un puits. Dans le livre de Samuel, Jonathan va donner à David son vêtement. Il va s'en dévêtir pour lui donner, en signe d'attachement et d'amitié. Traditionnellement, lors des noces, l'époux devait donner aussi une robe à l'épouse en signe d'alliance. Ce n'est donc pas un signe anodin que ce père qui revêt le fils. Le père du fils perdu s'attache de nouveau à son fils par ce geste de donner une tunique. Il fait de nouveau alliance avec lui. Il dit par cet acte de revêtir l'importance que son fils revêt à ses yeux. Il l'investit du rôle de fils bien-aimé qu'il n'aurait jamais dû perdre. Le texte dit de cette tunique qu'elle est protée en grec, ce qui peut vouloir dire qu'elle est la plus belle de la garde-robe du père, mais aussi peut-être qu'elle est la première de toutes. En tout cas, ce terme tend à exprimer une hiérarchie. Le fils devient le fils préféré, celui dont il faut s'occuper absolument, en premier. Ou bien ce terme exprime une chronologie. Le fils revêt la tunique primordiale, ce qui pourrait vouloir rapprocher cet acte de revêtir le fils d'un acte originel qui marque un nouveau début, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, peut-être une résurrection. Dans la Genèse, Joseph recevra une autre tunique importante pour une alliance tout aussi importante que celle qu'il vit déjà avec son père, c'est la tunique de l'infant qu'il va recevoir du Pharaon. Il est écrit dans la Genèse, « Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. » Et le Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira de son doigt la bague à cacher et la mit au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de lin fin et lui mit un collier d'or au cou. Joseph est alors revêtu d'un vêtement royal et il reçoit, comme il adviendra au fils perdu et retrouvé, un anneau. L'anneau que donne le Pharaon est celui qui porte le sceau royal et qui permet de déposer le cachet sur les documents officiels. Dans le cas du fils prodigue, il s'agit d'une bague, d'un anneau, mais on peut imaginer que c'est un bijou que le père détient dans son patrimoine et offre à son fils pour le replacer dans la filiation, dans l'héritage, dans son héritage, lui redonner un nom, un patronyme. Quant aux sandales, elles sont elles aussi un signe important, signe d'alliance aussi dans la Bible, signe de contrat, signe de confiance, d'accord conclu. La sandale est signe de possession. En effet, quand on rachète une terre ou quand on rachète une femme veuve, car à l'époque on rachetait les femmes veuves pour acquérir son patrimoine et la protéger, comme le fait Boaz dans le livre de Ruth, on place sa sandale sous la cuisse de celui avec lequel on contracte. D'autre part, arpenter un champ avec ses sandales, c'est montrer que ce terrain vous appartient. Ainsi, le fils qui revient et qui a pourtant déjà dilapidé son héritage reçoit des sandales pour arpenter de nouveau les champs du père et profiter de nouveau de son patrimoine. Il n'est plus pieds nus, il n'est plus pauvre. Il possède une terre, il est enfin arrivé chez lui. C'est là son véritable héritage. Dans ce geste d'habiller le fils, on lit une volonté d'effacer la faute passée. Le père ne veut plus voir ce pauvre air qui rentre chez lui comme un mendiant. Mendiant de pain, mendiant de pardon, mendiant d'amour, mendiant de dignité. Il change l'apparence de son fils pour signifier qu'il veut changer de regard sur lui. Il crée l'image qu'il veut voir en lui. Dans le livre du prophète Zacharie, dans une vision du prophète, Josué va être réhabillé lui aussi comme grand prêtre. Et il va être habillé devant à la fois le diable, l'adversaire, comme dit la Bible, et le messager de Dieu. Les deux seront témoins. Or, Josué était habillé de vêtements sales, dit la Bible. Il se tenait debout devant le messager. Celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban propre. Ils mirent le turban propre sur sa tête et l'habillèrent avec les vêtements. Et le messager du Seigneur se tenait là. Pour changer de dignité, Josué a changé de vêtements. Son impureté s'en est allée avec ses vêtements sales. Il est lavé de sa faute. Ainsi, le pardon du fils dans la parabole du fils prodigue est demandé explicitement et devient effectif par le regard du Père posé sur lui. C'est le Père qui choisit de faire grâce au Fils. C'est lui qui choisit de le voir autrement. Bien sûr, il y a l'autre fils, le bon, celui qui n'a pas eu l'idée de partir avec son héritage et qui est resté avec le Père à le servir en suivant tous ses commandements. Celui-là ne comprend pas la réaction du Père, il n'a pas entendu la confession du péché de son frère. Il ne sait pas qu'il s'est repenti. Il ne voit que l'apparence nouvelle et avantageuse que lui a donnée le Père. Il est resté dans l'idée que son frère est coupable. Pour lui, le vêtement de fête dont il est revêtu est une hypocrisie, un scandale. Lui qui a fait tant de mal dans sa vie dissolue, aurait le droit à ce vêtement de fête? Pourtant, comment le Père pouvait-il faire autrement? Son fils était mort et il est revenu à la vie, nous dit le texte. Le fils aîné devrait se réjouir du salut de son frère, car comme le dit le Père, il fallait bien se réjouir. Comment ne pas se réjouir après une peur si grande, une perte si grande pour un père, une rupture si mortifère, sans savoir où il est, ce qu'il est devenu? Comment ne pas être heureux de voir que son enfant est revenu à la vie? Quand nous lisons ces lignes, des histoires de famille nous viennent à l'esprit. Des histoires de jalousie, de préférence, de réjouissance qui nous semblent indues. Des fautes passées que nous n'oublions pas et l'on a tôt fait de prendre le parti du frère sage. Quand l'Évangile nous parle de cette parabole de Jésus, l'Évangile parle aussi d'un changement religieux. Un changement qui est en train de se produire avec le Christ. En effet, la série des paraboles perdues et retrouvées de l'Évangile de Luc est introduite par cette phrase. Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient en disant « Il accueille les pêcheurs et il mange avec eux ». Les gardiens de la foi juive ne veulent pas voir les gens salis par le péché. Ils ne veulent pas les voir partager le repas du salut avec le Christ. Ils ne comprennent pas comment on peut les accueillir ainsi. Ils ne comprennent pas que les collecteurs des taxes, ces collaborateurs de l'ennemi romain, et les autres pécheurs qui sont avec eux, se rapprochent de Jésus pour demander grâce et être sauvés et que Jésus les garde avec lui. Les pharisiens et les scribes sont des fils aînés dans la foi pour tous ceux qui se sont ensuite convertis à suivre le Christ lui-même. Ils sont les premiers héritiers de Dieu, ces scribes et ces pharisiens, et ils sont un peu jaloux de voir ce salut donné comme ça, sans distinction, sans condition. Au lieu de partager la bonne nouvelle du salut, ils préfèrent maugréer et sont jaloux de ces pécheurs qui ressemblent tout à coup au fils cadet du Père dans la parabole. Eux sont toujours dans l'observance, ils étaient là avant. Ils ne se sont pas égarés, ils ne se sont pas perdus. Ils ont la loi et les prophètes. Mais voilà, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le Messie est venu précisément pour ceux qui se sont égarés, pour ramener les brebis perdues. Le Christ dira « Je ne suis pas venu pour les bien portants ». N'est-ce pas la même chose dans toute famille? N'y a-t-il pas toujours le mouton noir, le vilain petit canard, celui dont il faut toujours payer les frasques? N'est-ce pas normal de s'occuper davantage de celui qui risque le plus, qui s'est égaré, qui perd sa vie? Pour parler de la fortune du Père, le texte de Luc utilise le mot « bion », ce qui signifie les moyens de subsistance, ce qui permet la vie. Quand ces moyens de subsistance arrivent à manquer, n'est-ce pas normal d'aider et de sauver la vie d'un fils? Un membre d'une famille qui perd ainsi sa vie à vouloir la vivre en excès est souvent la cause d'un déséquilibre profond pour tous les autres membres de la même famille. Mais c'est surtout le signe d'une fragilité plus grande de celui dont on dirait aujourd'hui qu'il dysfonctionne, qu'il est borderline. Dans le cas du fils prodigue, il reconnaît son tort, et ce n'est pas si souvent. Mais a-t-il changé profondément et durablement? Nous ne le savons pas. Cette réhabilitation a de quoi scandaliser? C'est trop facile. Il dilapide tout sans réfléchir et revient quand il est arrivé au bout de sa logique. Comment lui faire confiance? Qui paiera sa faute? Car c'est bien là qu'est le problème de la faute et du rachat. Il faut que quelqu'un paie. Et sortir de la logique de paiement nous semble, à nous, le plus souvent injuste. Comment exonérer le fils perdu de ce qui lui a coûté sa façon de vivre? Qui récupérera l'héritage dilapidé? Comment réparer le préjudice? Et maintenant qu'il est revenu, ce fils repenti, lui redonnera-t-on un nouvel héritage? Toutes ces questions sont en effet légitimes. C'est la vie ordinaire. Ce sont les réflexions que nous nous faisons quand nous voyons une chose aussi injuste. Toutes ces questions sont légitimes, mais seulement dans une logique de paiement pour des biens que l'on pourrait posséder. Toutefois, la logique qui régit la parabole que raconte Jésus n'est pas celle d'un paiement d'un bien, mais celle de la valeur de la vie. Le fils qui était mort a repris vie. Et ce n'est pas le fils qui se donne cette valeur lui-même, non. La vie se reçoit toujours d'un autre de façon imméritée. Et le fils qui était parti ainsi avait reçu sa vie du Père. Le véritable héritage qui ne peut être évalué en valeur financière, c'est la vie même du Fils. Pas seulement le fait d'être vivant, mais le fait d'être vivant comme fils du Père, aimé de lui. Dans cette parabole, l'important n'est pas de savoir si l'on est moralement bon, ni si l'on mérite l'alliance passée avec le Père, ni même avec Dieu. L'important, c'est de préserver la vie donnée par Dieu, cette vie donnée par le Père. Et le Père est témoin de la déchéance du Fils et du risque qu'il prend à perdre sa vie. C'est aussi celui qui doit le sauver, car c'est lui qui voit cela et c'est lui qui tient le plus à lui. Comment sauver celui qui s'égare et à quel prix ? Voilà quelle question nous renvoie cette parabole. Et elle y répond par ce geste de revêtir l'autre d'un vêtement de fête pour changer de regard sur lui. Espérer en lui, c'est l'aimer envers et contre tout. C'est lui remettre un habit de fête pour pouvoir le respecter à nouveau, lui redonner une dignité. Tous les parents qui ont vu un jour leur enfant risquer sa vie par des comportements dangereux, violence, addiction, errance, connaissent ce changement de logique parce qu'ils y sont contraints. Le problème n'est plus de savoir si ce que l'enfant fait est bien ou mal. Le problème devient souvent de savoir comment le sauver, comment sauver sa vie. Il est impossible de dire de quel point de vue est écrite cette parabole. On a l'impression qu'il y a un narrateur quelque part qui n'est ni le père ni les deux frères. Comme si un spectateur impartial regardait et racontait la scène. Dans cette parabole de Jésus, nous pourrions bien être tour à tour le père inquiet pour la vie de son fils bien-aimé, le fils perdu qui attend des autres un regard salutaire pour être réhabilité dans sa dignité, ou bien même le fils aîné qui juge selon la logique du paiement, du mérite, sans mesurer l'enjeu vital du pardon. Croire au salut, d'après cette parabole, c'est croire que ce point de vue est possible, impartial, à distance. En l'adoptant, on abandonne le jugement et l'on entre dans un nouvel ordre, l'ordre de la foi. Croire que Dieu fait grâce, c'est bouleverser l'ordre de la morale, de la vertu et même de la justice des hommes parfois, pour défendre la dignité de toute vie, la voir sous l'indignité, revêtir l'autre d'un habit de fête. D'ailleurs, saviez-vous que le carat des diamants se mesure en graines de caroube ? Sans doute le fils prodigue ne le savait pas, mais sa vie avait un prix extraordinaire aux yeux du Père. Amen.